c'est parce que Radio Capiune et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Comment faire face à la carence des enseignants qualifiés? Je le disais tout à l'heure que les enseignants qualifiés se font de plus en plus rares dans les secteurs de l'enseignement. D'après les experts, la situation est la même à la maternelle, au primaire et à l'école secondaire. Des maîtres et maîtresses sous-qualifiés et démotivés s'occupent de la formation de la jeunesse, l'avenir de demain. Et sans doute, cela a des lourdes conséquences sur l'avenir du pays. Alors, que faire pour combler cette carence des enseignants qualifiés dans bon nombre d'écoles? Nous avons déjà plusieurs auditeurs en ligne qui veulent participer à cette émission. Notre invité sera là dans quelques instants. Il s'agit de Théophile Mumpa, l'expert en éducation. Alors nous allons rapidement recueillir les questions des auditeurs. Deux sont déjà en ligne. Rufin Congo nous appelle des Dungu en province orientale et Pascal Émile des Kindu dans la province du Maniema. On commence avec Rufin. Bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Quelle est votre question, Rufin?
Merci pour m'avoir associé à cette émission. De toutes les façons, si aujourd'hui nous constatons que il y a des enseignants sous-qualifiés dans des enseignements primaires, secondaires ou encore au niveau de maternelle, ce n'est pas parce que nous manquons de personnel qualifié, mais par contre, on constate qu'au niveau des autorités, il y a un peu de relâchement parce qu'ils ne veulent pas prendre les personnes qualifiées pour les mettre dans les places qu'il faut.
Alors Rufin, il y a beaucoup d'autres auditeurs qui attendent aujourd'hui. Je vais vous demander d'être bref, de juste poser votre question. Comme ça, vous allez laisser la place aux autres. Allez-y rapidement.
Ok, ma question c'est de savoir comment le recrutement des enseignants dans les écoles primaires, secondaires, professionnelles se font au niveau national.
Merci Rufin. Pascal Émile Dekindou, bonjour.
Bonjour Jody.
On vous écoute.
Oui Jody, moi je commençais par donner mon inquiétude par rapport à la prolifération des écoles privées ici d'abord à Kindu. Depuis longtemps que le gouvernement a laissé la création des écoles au personnel et qui font leurs écoles en guise de gagner de l'argent. Depuis lors que les gens ont consenti que c'est dans des écoles où il faut gagner de l'argent, ils ont investi leurs moyens pour qu'ils engagent des agents qui ne sont pas qualifiés parce qu'ils ont donné de l'argent, parce qu'ils ont des connaissances.
Passez à la question, Pascal.
Oui, la question est de poser à l'invité, qu'est-ce que le gouvernement est en train de donner comme solution à cette crise qui engage la jeunesse aujourd'hui? Merci.
Merci. Fidel Kadanga de Kananga, bonjour. Fidèle, vous êtes en Boujimaï. On vous écoute, bonjour. Ok, on vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que la responsabilité est partagée. Parce que je connais bien à Kana, là-bas, dans l'école où moi, je faisais le stage. Et à la fin,
Fidèle, la ligne n'est pas bonne, désolé. La ligne n'est pas bonne aujourd'hui. Notre invité est déjà là. Théophile Mompalo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en éducation. Aujourd'hui, nous parlons de la carence des enseignants qualifiés. Quelles sont les causes à la base de cette situation? Rapidement, et puis vous allez répondre aux questions des auditeurs.
Merci beaucoup. Je m'excuse d'abord parce qu'on a connu un bouchon. Bon, c'est pas un problème. Bon, la carence, la question c'est sur la carence. Mmh. La carence des enseignants qualifiés. Notre pays est en train de traverser une crise. Et cette crise a des répercussions presque dans tous les domaines, et notamment dans le domaine éducatif. De telle sorte que, à l'heure actuelle, la plupart des écoles, je dis bien, je pèse bien mes mots, ont l'habitude d'engager n'importe quel type d'enseignant, sans tenir compte du profil tel qu'exigé par les instances supérieures.
D'ailleurs, la première question des Rufins, des Dungu, est de savoir comment se fait le recrutement des enseignants.
Justement, c'est ça. Et le recrutement se fait de façon tout à fait subjective, étant donné cette crise-là. La crise, de telle sorte que la société connaît un problème d'emploi. Alors, il arrive que les chefs d'établissement, à l'heure actuelle, engagent, non pas des candidats qui ont le profil attendu par rapport au métier d'enseignant. Non, ils engagent n'importe qui. Ils engagent leurs frères, ils engagent leurs connaissances, sans pour autant... Ce n'est pas mauvais d'engager son frère lorsque ce frère-là présente le profil. Mmh. Mais la plupart, justement, ne respectent pas ce profil à cause du manque d'emploi. Il y a même de ces responsables d'école qui dépassent même les bornes. Ils vont jusqu'à engager même des étudiants qui n'ont pas encore la qualification, donc qui n'ont pas encore le premier grade, des gradués. Mmh. Ils n'ont pas ce grade-là. Ils sont entre... Donc ce sont des D6 parce qu'ils se retrouvent en premier, deuxième graduat. On les engage comme enseignants. Même il y en a qui vont même plus loin, qui engagent même ceux qui n'ont pas fait les humanités pédagogiques 100 ans.
D'accord, on va y revenir, on va accueillir des autres auditeurs. Yves voilà, Kavuma Delikasi et c'est Oulungala Mouloumé de Kananga. Yves Kavuma, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, je vous appelle à partir de la ville de Likasi. C'est juste aussi pour vous donner ce même problème. Nous les vivons ici à Likasi. Vous allez constater, certains enseignants sont pris parce qu'ils sont faits ratés et on les prend en plus sans une qualification déterminée. C'est-à-dire, vous voyez un enseignant qui est, par exemple, en premier graduat, parce que le propriétaire de l'école, c'est soit son oncle, soit ton frère, et dans ce cas-là, vous allez voir ces enfants-là qui sont encadrés par quelqu'un qui n'a pas de qualification. Comment est-ce que ces enfants peuvent aller se défendre à l'examen d'État? Or, l'examen d'État, quand on pose l'examen d'État, c'est par rapport à un niveau bien élevé.
Voilà, alors, passez maintenant à la question, Yves.
Oui.
Alors, quelle est votre question? Alors, oui, vous venez de décrire une situation à Likasi. Alors, quelle est la question? Vous avez une question à adresser à l'invité?
Ah bon, par rapport à l'ICACI, nous avons constaté aussi il y a un taux, le taux de réussite cette année, vraiment, il est moins élevé par rapport aux autres années.
Merci Yves, Yves, vous n'avez pas de questions, c'était juste un témoignage. Merci d'avoir appelé. C'est où Ngala Mouloumé, vous êtes à Kananga, bonjour.
Ah bonjour, messieurs les journalistes et à tous les auditeurs de la radio Okapi Kinesi à présent.
On vous écoute.
C'est où Ngala Mouloumé, à partir de Kananga. En premier lieu, moi, je pense qu'il est difficile d'améliorer le secteur d'éducation en RDC. À cet effet, pour que l'objectif soit atteint, l'État doit d'abord penser à améliorer les conditions de vie des enseignants pour que ces derniers se trouvent motivés et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Notons que lorsque les travailleurs ne trouvent pas l'intérêt dans tout ce qu'ils font, c'est là que la volonté du travail s'en trouve diminuée. Mais concernant, pour faire face aux carences des enseignants qualifiés, il faut d'abord chaque fois organiser des séminaires, passer par les recyclages et doter des écoles des ouvrages et livres nécessaires pour améliorer l'enseignement en RDC. Maintenant, j'ai deux questions à poser à l'invité. La première, quelles sont d'abord les conditions pour recruter un enseignant en RDC? Et la seconde, quelle est la mesure que l'État a prise pour faire face à ces fléaux? C'est où la canne en je vous remercie, monsieur le chemin.
Merci bien. Georges Mukinda nous appelle de Manono, dans la province du Katanga. Bonjour. Il n'est plus en ligne, désolé. Alors, Théophile Moupalo, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Bien, la première question concernant les conditions d'engagement de l'enseignant, notre auditeur n'a pas précisé le niveau. Nous allons essayer un peu de nous référer à ce niveau. Il y a le niveau primaire, il y a le niveau secondaire, il y a aussi le niveau supérieur.
La maternelle aussi.
La maternelle, j'entends.
Commençons par la maternelle.
Commençons par la maternelle. Pour l'instant, comme la maternelle étant un enseignement facultatif, là, il revient à ceux qui organisent cet enseignement-là de pouvoir respecter les conditions. Les conditions, en principe, il faut avoir suivi une formation d'éducateur ou d'éducatrice, parce que la plupart du personnel là-bas, ce sont des femmes éducatrices de la maternelle. Alors cet enseignement-là est en train d'être, le module de formation est en train d'être érigé par le PSP, si j'ai bonne mémoire, puisque d'ici là, on va pouvoir officialiser cet enseignement. Nous n'en sommes pas encore là. Donc,
quels sont les établissements qui forment les enseignants ici? Bon, bien sûr, on dit qu'il faut d'abord faire la section pédagogie, la pédagogie aux humanités.
Exactement. Donc, vous avez posé la question par rapport à l'école maternelle. J'ai dit, il faut être un diplômé de humanité pédagogique, 100 ans, et éventuellement, vous pouvez avoir renforcé cette formation par une autre au-delà de votre diplôme d'État. Spécialisé de formateurs spécialisés à l'enseignement maternel. En ce moment-là, on vous engage. Il y a même des gradués qui font cette formation-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore officiel. Bon, ça, c'est au niveau de l'école maternelle. En ce qui concerne l'école primaire, il faut être normalement diplômé des humanités pédagogiques. C'est ça. Alors, au niveau du supérieur, le supérieur, là, ça ne nous concerne pas tellement pour l'émission, mais ça dépend.
Non, est-ce qu'un enseignant...
Parce qu'il y a des enseignants aussi, oui. Des licenciés et d'autres.
Est-ce qu'un enseignant, par exemple, du secondaire ou du primaire doit s'arrêter seulement aux humanités pédagogiques ou il peut aller loin, pousser loin les études?
Exactement. Pour l'instant, la priorité est accordée. Pour le niveau primaire.
Primaire et secondaire.
Primaire... Pour donner cours à l'école primaire, il faut avoir les diplômes des humanités pédagogiques. Il faut être diplômé d'État des humanités pédagogiques. Primaire, j'ai dit bien. Pour le secondaire, il faut passer le niveau du secondaire des humanités. Il faut avoir soit le diplôme de gradué, de graduat, n'est-ce pas, soit le diplôme de licence. Voilà, pour donner cours au niveau secondaire. Si je crois avoir répondu à la première question.
Alors, la deuxième
par rapport à celle de notre ami Séoul, je crois. La deuxième mesure que l'État a préconisée pour assurer la qualification des enseignants non qualifiés. Pourquoi? Parce qu'il arrive, comme je l'ai dit à l'introduction, à mon introduction, qui n'en était pas une parce que vous avez déjà introduit sans moi, il arrive que... Certains chefs d'établissement engagent les gens qui n'ont pas fait les humanités pédagogiques. Par exemple, ceux qui ont fait le littéraire. Ils se retrouvent comme enseignants de primaire. Ça, c'est flagrant. C'est flagrant. Alors, lorsqu'ils enseignent, il y a beaucoup de phases. C'est un personnel que nous qualifions ici de sous-qualifiés, que nous appelons des personnels
sous-qualifiés.
Alors, même au niveau du secondaire, il arrive qu'il n'y ait pas des gens qui ont fait... Bon, on peut être gradué, mais... pas en pédagogie appliquée. Par exemple, on est gradué en sciences techniques appliquées, on est gradué en communication, etc. On vous demande d'aller enseigner, vous serez sous-qualifié. Eh bien, puisque vous avez les connaissances, il faudra que on vous assure la qualification. Et il y a des mesures, justement, que l'État a préconisées pour que ces enseignants qui sont sous-qualifiés, notamment au niveau du secondaire, pas primaire, il ne faut pas être sous-qualifié. Là, il faut être vraiment qualifié, diplômé des humanités pédagogiques.
Mais au niveau du secondaire... D'après certains, l'une des raisons qui fait qu'il n'y a pas assez d'enseignants qualifiés aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de jeunes gens ont perdu l'intérêt pour cette filière, pour la pédagogie, ils ne sont plus intéressés par ces métiers d'enseignants.
Oui, effectivement, parce que vous savez, lorsqu'on s'engage devant certaines filières d'université, on a tendance à embrasser celles qui, à la fin, offrent un peu plus de moyens. Pour devenir enseignant, l'enseignement, c'est une vocation. Une vocation, c'est comme un prêtre, c'est comme un avocat, etc. Donc, c'est le goût qui motive les gens à devenir enseignants. Vous ne pouvez pas mettre l'argent avant tout. Mais il faudra que l'État puisse contourner cet obstacle, puisse aider ces enseignants-là, comme ce fut le cas avant l'indépendance, puissent, n'est-ce pas, se retrouver dans leur métier. Mais il ne faut pas... c'est un métier qui est assorti de désintéressement de la part de leurs auteurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les rendre des commandeurs, etc., des sous-qualifiés. Bon, alors, je voulais répondre à la question de notre ami Séoul. Pour assurer la formation, la qualification des sous-qualifiés,
il faut des recyclages.
Des recyclages, absolument. Et puis, on demande à certains établissements d'organiser ce qu'on appelle les cellules de base de la formation et d'encadrement. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous retrouvez au niveau des humanités, vous donnez le cours de français, par exemple, vous n'avez pas fait les humanités, vous avez fait, par exemple, la communication. Eh bien, vous avez la matière, mais vous ne savez pas transmettre. On doit vous apprendre, vous initier, vous montrer comment il faut transmettre, comment il faut préparer la fiche de leçons, etc.
Comment préparer la leçon?
La leçon. Tout ça. Pour ça, vous devez, les établissements, il est demandé aux établissements, les chefs d'établissement, d'organiser ces cellules-là. On prend, justement, on désigne les enseignants les plus qualifiés qui ont suffisamment l'expérience et qui ont la qualification, ceux qui ont fait effectivement le français, la pédagogie appliquée, qui ont fait beaucoup d'années, qui ont fait leur preuve, de pouvoir aider ceux-là qui viennent, qui n'ont pas cette qualification-là, de pouvoir se mettre à jour.
À jour. Nous avons trois auditeurs en ligne. Omar Kigalo est à Kinshasa. Aaron nous appelle de Kananga et Rachel depuis Siro. Omar Kigalo, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai une question assaisonnée d'une préoccupation. Ma question est celle-ci. Quelles sont les qualités physiques et morales d'un bon enseignant? C'est-à-dire, quels sont les traits à partir desquels on doit reconnaître tel est vraiment un bon enseignant? Alors, je voudrais finir rapidement, puisque le temps fait défaut, à signaler que le manque d'enseignants qualifiés entraîne des conséquences fâcheuses. L'invité à signaler le recrutement qui est complaisant aujourd'hui et le manque de recyclage au sein des écoles. Mais moi, je voudrais soulever pour finir aujourd'hui les mauvaises conditions de travail qui démotivent. Quand j'étais en cinquième année, j'avais un monsieur qui était très intelligent. Mais puisqu'il était mal payé, il était devenu négligent. Il faudrait aussi songer car il n'y a pas de vertu sans les minimums nets. C'est vrai qu'il y a des recrutements complaisants, c'est vrai qu'il y a manque de recyclage, mais les mauvaises conditions de travail font aussi que les enseignants qui étaient autrefois qualifiés deviennent non qualifiés. Voilà ma préoccupation, je vous remercie.
Merci à Omar. Aaron de Kananga, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, je voudrais, Jody, avant peut-être de poser ma question, qu'il me soit permis de dire un peu mot par rapport à ce sujet.
Soyez bref alors.
Je sais que le sujet est vraiment pertinent. Le grand problème est que tout est dérangé à partir de la tête, hein, au niveau de l'université, au niveau secondaire, et on descend même jusqu'au niveau primaire où on trouve que les choses ne semblent pas marcher parce que les enseignants qui sont formés au niveau des ISP, ce sont eux, le produit qui sont lancés sur le marché descend au niveau des humanités pour commencer à assurer les cours. Et ceux qui sont aussi formés au niveau secondaire, plus précisément dans l'option pédagogie générale, se retrouvent maintenant obligés de dispenser ces cours au niveau primaire tout comme au niveau maternel. Alors, moi je voudrais directement poser ma question. J'ai suivi l'invité à essayer un peu de parler du recrutement qui est bien sûr complaisant. Et tout ça parce que tel, il y a des relations, il y a des connaissances, on arrive à prendre tel pour qu'on puisse assurer les cours au niveau primaire tout comme au niveau maternel. Alors, quelle est l'implication du gouvernement à travers son service d'inspection qui à tout moment déploie des éléments au niveau des écoles pour voir comment est-ce que les enseignements sont assurés, parce que nous assistons ici à Kananga la recrudescence des écoles primaires et des écoles maternelles, bien sûr, parce qu'on a les objectifs vraiment lucratifs. Alors, ces inspecteurs-là descendent au niveau des écoles. Maintenant, au niveau des écoles, le travail, il n'y a pas une bonne qualité du travail de la part de ces enseignants-là. Alors, quelle est l'implication maintenant de l'État
merci
à
Aaron.
Travers son service-là?
Bien, merci.
Et deuxième préoccupation,
oui, rapidement.
Vous savez, seulement, cette mauvaise qualité de la part des enseignants, mais il y a aussi les conditions de travail qui doivent être améliorées.
Merci Aaron, merci Aaron. Rachel, vous êtes à Isiro, bonjour.
Allô, bonjour.
Quelle est votre question? Soyez bref, s'il vous plaît. On vous écoute.
Bon, je n'ai pas de questions, juste même petite contribution, mais je serai bref. Oui, je m'arrête du concernant la question qui vient d'être posée. La réponse est claire. Pourquoi il y a carence des enseignants? C'est parce qu'il y a, donc il y a à cause de la mauvaise rémunération des enseignants. Vous savez, aujourd'hui, messieurs les journalistes, il y a même de jeunes gens qui disent que non, la personne qui pense et qui préfère devenir enseignant professeur, donc c'est une personne qui est anormale. Mais pourquoi on peut dire ça? Alors, on oublie qu'aujourd'hui, si on devient ce qu'on est, c'est à cause des enseignants. Là, moi, j'appelle ça l'ingratitude. Et ce que j'aimerais dire, les enseignants, ce sont d'ailleurs les gens qui allaient être mieux payés que quiconque. Parce que c'est eux qui sont donc à la base de la formation des individus. Et autre chose pour finir, je m'aimerais dire aussi qu'ils peuvent avoir aussi donc la présence des enseignants, mais pas une bonne formation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des professeurs qui préfèrent donner cours dans de 4 ou 5 écoles. Ils l'enseignent dans les avant-midi et dans les après-midi. Et maintenant, quand ils rentrent à la maison épuisés, et il n'aura pas le moyen qu'il prépare le cours de demain pour enseigner dans les avant-midi. Et là, vous voyez, tout ça, c'est parce que le salaire qu'il est en train de leur donner, c'est un peu, c'est pourquoi les enseignants se donnent du mal à aller enseigner dans plein de donc il y a beaucoup d'écoles pour avoir un peu de quoi vivre.
Merci.
Et ça, c'est ce que j'aimerais vous dire. Merci.
Merci, Rachel. Célestin Kabeya, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, Nudi. Bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Ok, bon, moi, j'aimerais un peu aborder dans le sens. Donc, il n'est pas seulement dire que les chefs d'établissement ont vraiment un problème au moment
Célestin.
De l'établissement.
Alors,
le
soyez...
problème est de savoir
oui.
Pourquoi est-ce qu'ils les font.
Célestin.
Parce que moi, un jour, j'étais de passage, j'étais allé passer mes vacances académiques dans mon secteur d'origine. J'ai constaté plusieurs écoles là. Beaucoup d'enseignants qui donnaient cours n'étaient que des diplômés. Lorsque j'ai essayé un peu d'aborder, donc de parler avec certains chefs d'établissement, ils me disent que cela est conditionné que dans le sens que lorsqu'ils font appel à des enseignants qui sont dans des grandes villes ou soit des enseignants qui sont qualifiés de venir donner cours, ils refusent, ils disent non, nous ne sommes pas habitués ou soit nous ne voulons pas aller évoluer au village ou soit donner cours au village. Alors moi, je vais redemander à notre invité de me dire, dans ce cas, pouvons-nous donner la faute au chef d'établissement ou aux étudiants là qui viennent déterminer la faute? C'est ça, au moins, c'est que j'avais comme préoccupation.
Merci. Théophile Moufalo, pouvez-vous répondre rapidement à ces auditeurs? On va commencer avec la question de Omar Kigalo qui veut savoir quelle est la qualité physique et morale d'un bon enseignant. Ou quelles sont les qualités physiques et morales d'un bon enseignant?
Oui. Les qualités physiques, c'est que il ne faut pas avoir un handicap physique. Il faut avoir une bonne vision, il faut avoir une bonne écoute, donc une bonne oui, de bon sens. Il faut être présentable, il faut avoir un langage qui coule, comme le langage de communicateur, parce que les pédagogues sont des communicateurs, autant
bien
que
sûr.
Vous.
Mmh.
En gros, c'est cela. Et ça, c'est sur le plan physique.
Qualité morale.
Qualité morale, éviter la corruption. Éviter la corruption, éviter l'égoïsme, éviter la concupiscence, éviter l'effet de halo. Éviter de donner des points à ceux qui ne le méritent pas. Absolument.
Mmh.
Et puis, savoir préparer de ses cours convenablement. Avoir, bref, la conscience professionnelle. Il faut être dévoué. Il y en a beaucoup. Il faut être dévoué. Il faut être responsable. Vous avez accepté librement d'effectuer ce métier. J'espère que vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous avez fait ça par vocation. Il faut préparer la leçon. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que dans certains établissements aujourd'hui, lorsque vous avez fait 5 ans, on vous exempte de pouvoir préparer votre leçon. Non, un enseignant, c'est celui qui se forme, qui assure sa formation de façon permanente. C'est ce qu'on appelle la formation ou l'éducation continue ou permanente.
Alors, Omar nous dit il doit se former. Omar nous dit qu'il y a certains enseignants qualifiés, mais qui sont démotivés parce qu'ils ne sont pas bien payés, alors ils ne donnent plus les meilleurs d'eux-mêmes.
Nous ne dirons jamais assez. Ça, c'est un problème qui est déjà connu. L'État doit faire un effort pour payer les enseignants suivant la réalité. Et puis, à un moment donné, lorsque nous terminions, nous qui avons fait les sciences et l'éducation, lorsqu'on était recrutés par l'État, nous tous...
Vous êtes passé par quel établissement?
Toujours.
À l'IFE, vous avez...
Non, j'ai fait les Kisangani.
À Kisangani.
Oui, j'ai fait d'abord ici, à l'université Lomfano, et puis nous avons été transférés à Kisangani, au moment de la réforme. Bon, nous qui venions de faire les sciences de l'éducation, nous touchions plus que les autres fonctionnaires, parce qu'on avait une prime supérieure par rapport à notre métier. L'État le reconnaissait l'importance. Et il faut rétablir tous ces avantages-là. On ne peut pas payer un fonctionnaire de notre ministère par rapport à celui de la même manière. Non. Parce que regardez un peu le travail effectué par les enseignants. C'est un travail noble. Il faut essayer de le motiver. Il faut le mettre à l'abri. Les gens qui travaillent à la banque, sont bien traités, ils ont beaucoup de primes, ou même dans d'autres secteurs tels que le secteur génératrice de recettes, je ne veux pas faire la publicité ici, ils ont beaucoup, pourquoi ? Pour l'éviter, leur éviter de tomber, n'est-ce pas, au piège des tentations, de corruption, de ce que j'appelle ici effet de halo, c'est-à-dire lorsque vous avez affaire à un élève, à une interrogation, vous lui donnez les points qu'il ne mérite pas, parce que il vous a donné de l'argent, ou bien ce qu'on appelle des cotations sexuellement transmissibles, etc. Vous le cotez pas objectivement, de façon subjective.
Bien,
ou bien
avant,
vous le cotez de façon...
Avant de répondre à Aaron, à la question d'Aaron, nous avons deux autres auditeurs en ligne. Patrick Mumbere est de Goma et Serge Makassi, il est également à Goma. Patrick Mumbere, bonjour.
Oui, bonjour messieurs les journalistes. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole à la Radio Kapi.
Patrick, quelle est votre question par rapport au thème du jour?
Bon, ma question est celle-ci, messieurs les journalistes. Quel est le point positif et l'impact positif de la bancarisation de la paie des enseignants? Parce que ici, nous avons constaté que ces enseignants qui vivent surtout à l'intérieur ont des problèmes surtout qui sont liés au transport. Quelqu'un qui peut avoir, je ne sais pas, 71 000 francs congolais, qui va encore bousiller cet argent dans le transport. Donc, il n'y a pas vraiment, il ne faut pas vraiment, il ne se retrouve pas bien.
Alors, Patrick, vous pensez que le fait qu'on ait la carence des enseignants qualifiés liée à la bancarisation des salaires des enseignants?
Bon, je crois que, bon, à cause de ça, cela peut laisser à ce que les enseignants puissent ne plus préparer leur matière bien pour penser toujours à parcourir
pas
de kilomètres pour aller retirer leur dû. Tout ça, ça peut aussi être quelque chose de négatif de la part des enseignants.
D'accord, merci. Serge Makassi, vous êtes également à Goma. Bonjour. Serge, bonjour. On vous écoute, Serge.
Oui, donc j'ai une petite courte question parce que tous les prédécesseurs ont tout dit vraiment.
Oui.
Alors, j'aimerais savoir si il existait-il une structure syndicale chargée de contrôler le fonctionnement des enseignants. Parce que quand le sujet lui-même le déclare tout haut, il y a la faiblesse, le taux est à la base des enseignants qualifiés. Est-ce qu'il y a cette structure-là au niveau des syndicats? À vous, monsieur Lévesque.
Merci, Serge Makassi. Bien, Théophile, mon père, revenons à Aaron qui nous disait, qui posait la question de savoir quelle est l'implication, par exemple, des inspecteurs. Il parle des inspecteurs qui sont censés vérifier comment se donnent les enseignements dans les écoles. Et ils doivent savoir s'il y a des enseignants sous-qualifiés ou des enseignants pas qualifiés et essayer de résoudre le problème.
Oui, exact. Je crois que les choses doivent être suffisamment claires là-dessus. Au niveau de l'école, le responsable numéro un de l'école, c'est le chef d'établissement. C'est lui le premier contrôleur des enseignants sur tous les plans. Le plan administratif, surtout ici, la gestion pédagogique, donc sur le plan pédagogique. C'est le chef d'établissement qui est appelé à contrôler, voir comment se déroule ces leçons, ces enseignements-là. Est-ce que les enseignants respectent les prévisions matières? Est-ce que les cours qu'ils donnent sont en conformité par rapport au programme établi? Ça, c'est lui. Il y a également son adjoint. Au niveau du primaire, il y a ce qu'on appelle le conseiller, je crois, le conseiller pédagogique, où à l'époque, on parlait des surnuméraires, l'adjoint du directeur. Mmh. Et au niveau du secondaire, il y a le directeur des études, le DE. C'est lui qui est appelé à contrôler aussi. Il y a également le conseiller pédagogique. Nous sommes au niveau du secondaire. Mmh. Donc, ce sont des personnalités qui sont là chaque jour, qui peuvent établir un horaire pour pouvoir observer comment se déroulent les leçons à l'école.
Et donc, alors, il ne les font plus. Alors, s'il y a des enseignants moins qualifiés, c'est qu'il y a aussi des surnuméraires et des directeurs des études presque pas qualifiés.
Oui, bon, il appartient à l'État. Vous savez, pour devenir chef d'établissement, vous devez passer un concours. Hein. Il y a des conditions, etc. Alors, donc, il y a aussi l'inspecteur qui, de temps en temps, passe pour contrôler cela. Alors, ça, c'est pour permettre de voir un peu comment s'assure les enseignants, comment est garantie la qualité d'enseignement.
Alors, Serge De Gaulle m'a dit, est-ce qu'il n'existe pas une structure syndicale des enseignants qui peut aussi faire le travail de vérification?
Oui, il y a beaucoup de syndicats des enseignants.
Mais qui ne vont pas vérifier comment se donnent les enseignants.
C'est la question, le problème est là. Hein, parce que la plupart de ces syndicats se cantonnent au niveau de Kinshasa. Il n'y a pas de feedback au niveau du terrain, etc. Mais il y en a, ça existe. Ils doivent jouer le rôle.
Oui, et Patrick de Goma nous parle de l'impact de la bancarisation des salaires des enseignants qui vont chercher leur argent. Ils vont dans telle banque, à tel endroit, l'argent n'est pas là. Entre-temps, ils abandonnent les élèves. Et c'est là, d'après lui, il y a un impact négatif.
C'est vraiment difficile. Le gouvernement, en instaurant cette bancarisation, a commis plus ou moins l'imprudence de privilégier ceux qui sont dans le milieu urbain, tandis que ceux qui sont à l'arrière-pays souffrent. Ils parcourent des distances, des kilomètres pour pouvoir atteindre les banques, s'il y en a. Mais l'État a été informé de telle sorte que, pour l'instant, il est en train de faire un effort pour que la paye puisse être rétrocédée au niveau de Caritas. Mmh. Ouais, donc, ce sont des structures qui sont au niveau de plus proches de ces enseignants qui sont dans des coins les plus reculés de la République.
Bien, Théophile Mompal, on va terminer par ici. Le temps de lire rapidement quelques réactions des auditeurs.
Je vous en prie.
Et vous allez répondre aussi rapidement. C'est bienvenu Mupanda de Boutembo. Il dit, je suis chômeur. Est-ce que celui qui n'a fait ni l'ISP, ni les sciences de l'éducation peut être considéré comme un sous-qualifié?
Bien sûr. Il est sous-qualifié.
Ah,
il peut se former sur l'État pour devenir qualifié.
Bien. Pour améliorer et avoir un personnel qualifié, il faut apprendre aux Congolais l'amour de la patrie et du travail dans la rigueur, ainsi que la bonne moralité de l'éducateur. Ça, Emmanuel, depuis Lubumbashi.
Ça ne suffit pas. Il ne faut pas devenir enseignant. Il n'y a pas que les aspects liés à la moralité, etc. Il y a aussi les aspects techniques, les aspects de la théorique. Il faut être du domaine. Quand vous donnez le cours de français, on suppose que vous avez fait le français au niveau de l'ISP, au niveau de la pédagogie appliquée. Et puis, vous devez savoir transmettre ce français-là. Donc, il y a la formation théorique, il y a la formation pratique. On doit vous initier grâce à l'observation, grâce à des stages de terrain, des stages de leçons type, des leçons d'essai, des stages passifs, des stages actifs, etc., pour que vous puissiez devenir qualifié.
Pour faire face au manque des enseignants qualifiés dans notre pays, l'État doit d'abord procéder par des recyclages des enseignants au moins une fois par an.
Une fois par an.
C'est un auditeur qui nous le dit.
C'est insuffisant.
Combien de recyclages par an?
Il faut faire ça au moins deux fois par mois, voir un peu comment cela se passe. C'est pas l'État seulement, j'ai bien dit. C'est pas l'État. Cela commence d'abord sur le terrain par l'organisation pédagogique qui est composée du chef d'établissement, etc., par les cellules que j'appelle les cellules de base de formation et de récit.
Bien. Théophile Mompalo, voilà. Expert en éducation.
Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup.